Chapitre 9. 5 jours après la mort de Raffles, M. Bambridge se tenait debout sous le large porche qui menait à la cour du Dragon Vert dans l'attitude d'un homme qui a du temps à perdre. Toute figure humaine de cet acabit, plantée sous le porche à 7 heures de l'après-midi, était aussi sûre d'attirer de la compagnie qu'un pigeon qui a trouvé quelque chose à becqueter. M. Hopkins, le marchand de draps d'en face, aux manières doucereuses, fut le premier à se rendre à ce genre d'appât, recherchant d'autant plus volontiers un peu de causerie masculine que sa clientèle ne comptait guère que des femmes. M. Bambridge le prit de haut avec le drapier, sentant que Hopkins était naturellement heureux de lui parler. Il n'avait pas l'intention de perdre beaucoup de paroles pour Hopkins. Il ne tarda pas toutefois à se former un petit groupe d'auditeurs plus important. Les uns s'arrêtaient en passant, les autres venaient voir ce qu'il y avait de nouveau au Dragon Vert. Et M. Bambridge trouvait digne de lui maintenant de raconter maintes choses remarquables sur les superbes haras qu'il avait visités, sur les marchés qu'il avait faits pendant un voyage dans le Nord dont il venait de rentrer. Que les gentlemen ici présents se le tinssent pour dit, s'ils se croyaient capables de lui montrer quelque chose qui surpassa une certaine jument bai pur sang, prenant ses 4 ans, il ferait bien de commencer par aller la voir à Doncaster. Il y avait aussi une paire de chevaux noirs qu'il allait mettre au dressage et qui rappela vivement à son souvenir une autre paire qu'il avait vendue à Faulkner en 19 pour 100 guinées et que Faulkner avait revendue 160 2 mois plus tard. La conversation était devenue très animée lorsqu'on vit arriver M. Frank Hawley. Il n'était pas homme à compromettre sa dignité en flânant au Dragon Vert. Mais, apercevant Bambridge, il s'approcha pour demander au maquignon s'il avait trouvé l'excellent cheval du cabriolet qu'il s'était engagé à lui procurer. M. Hawley fut prié d'attendre un peu. On allait lui montrer un certain gris choisi à Bilkley. Si celui-là ne satisfaisait pas ses désirs à un cheveu près, Bambridge ne savait pas ce que c'était qu'un cheval, ce qui était bien l'invraisemblance la plus monstrueuse que l'on pût concevoir. Au même moment, un cavalier passa lentement dans la rue. « Bulstrode !» murmurèrent à la fois 2 ou 3 voix. M. Hawley se retourna pour jeter un regard indifférent sur le dos du cavalier. Mais Bambridge, en le suivant des yeux, fit une grimace. « Par Jupin, cela me rappelle, » et il commença en baissant un peu la voix, « J'ai raccroché à Bilkley autre chose encore que votre cheval de cabriolet, M. Hawley. J'ai raccroché une jolie histoire sur Bulstrode. Savez-vous comment il a fait sa fortune ? À tout gentleman curieux de petites informations particulières, je puis en fournir gratis. Si chacun recevait ce qu'il mérite, Bulstrode pourrait aller dire ses prières à Botany Bay. « Qu'entendez-vous par là ? » demanda M. Hawley, fourrant ses mains dans ses poches, et s'avançant de quelques pas. S'il se trouvait que Bulstrode fût un misérable, Hawley aurait été un bon prophète. Je le tiens d'un individu qui était un ancien camarade de Bulstrode. Je vais vous dire où je l'ai avisé pour la première fois. C'était à la vente l'archère. Mais je ne savais rien de lui alors, et il m'a filé entre les doigts. Il était à la recherche de Bulstrode, sans aucun doute. Il m'a dit connaître tous ses secrets, et pouvoir le taxer à n'importe quel taux. Ça ne l'a pas empêché de jaser avec moi à Bilkley. Il avait avalé un verre de brandy. Dieu me damne si je crois qu'il avait l'intention de se faire le dénonciateur de son complice. Mais c'est un de ces individus vantards, vantards à se vanter d'un épargne au jarret d'un cheval, comme si ça rapportait de l'argent. Un homme doit savoir où il convient de s'arrêter. Quel est le nom de cet homme ? « Où peut-on le trouver ?» dit Hawley. « Quant à savoir où on peut le trouver, je l'ai laissé à la tête de Sarrasin. Il s'appelle Raffles. »« Raffles ?» s'écria M. Hopkins. « J'ai fourni son enterrement hier. Il a été enterré à Lewick. M. Bulstrode a suivi le convoi. Un enterrement fort décent. » La nouvelle ne manqua pas de produire une forte sensation parmi les auditeurs. M. Bambridge poussa une exclamation dont « 1000 démons » était le terme le plus doux. Et M. Hawley, fronçant le sourcil et penchant la tête en avant, reprit « Comment ? Où est mort cet homme ?»« À Stone Court, » répondit le drapier. La femme de charge a dit que c'était un parent de son maître. Il y est arrivé malade le vendredi. A-t-il été soigné par un médecin quelconque? Oui, par M. Lydgate. M. Bulstrode l'a veillé une nuit. Il est mort le troisième jour au matin. Continuez, Bambridge, dit M. Hawley avec insistance. Qu'est-ce qu'a raconté cet individu sur le comte de Bulstrode? Le cercle des auditeurs était devenu de plus en plus nombreux. La présence du secrétaire de la ville était une garantie qu'il se passait quelque chose qui méritait l'attention. Et M. Bambridge débita son récit en présence de 7 personnes. C'était en résumé ce que nous savons, y compris ce qui se rapportait à Will Ladislav, avec addition de couleurs et de circonstances locales. C'était ce que Bulstrode avait tremblé de voir révélé, ce qu'il avait espéré enterrer à tout jamais avec le cadavre de Raffles. C'était ce spectre acharné de sa vie passée dont il se croyait délivré par la Providence, tandis qu'il passait à cheval devant la porte du Dragon Vert. Oui, par la Providence. Il ne s'était pas encore avoué qu'il eût rien fait pour contribuer à ce résultat. Il avait accepté ce qui semblait s'être offert à lui. Il était impossible de prouver qu'il eût rien fait pour hâter le départ de l'âme de cet homme. Mais l'histoire se répandit à travers Middlemarch. M. Frank Hawley poursuivit ses investigations en envoyant à Stone Court un commis de confiance pour recueillir de la bouche de Mrs. Able le plus de détails possible au sujet de Raffles et de sa maladie. Il apprit ainsi que c'était M. Garth qui avait amené l'individu à Stone Court dans son cabriolet. M. Hawley saisit en conséquence la première occasion de voir Caleb, et après l'avoir entretenu d'une affaire d'arbitrage, il essaya de le questionner adroitement sur Raffles. Il ne parvint pas à arracher à Caleb une seule parole défavorable à Bulstrode. Restait cependant le fait que Garth était bien forcé d'admettre, c'est qu'il avait renoncé dans le courant de la semaine dernière à travailler pour Bulstrode. M. Hawley en tira ses conclusions, et, convaincu que Raffles avait raconté son histoire à Garth, et que c'était pour cela que Garth avait abandonné les affaires de Bulstrode, il en informa M. Toller quelques heures plus tard. La version circula, et à force de circuler, elle perdit tout ce qu'elle avait encore de dubitatif. Et on la regarda comme une information venant en droite ligne de Caleb, si bien que le mieux informé des historiens eût pu conclure que Caleb était le principal révélateur des méfaits de Bulstrode. M. Hawley ne fut pas long à s'apercevoir qu'il n'y avait pas de prise pour la loi ni dans les révélations de Raffles, ni dans les circonstances de sa mort. Il s'était rendu en personne au village de Lowick afin d'y examiner les registres et de discuter l'affaire avec M. Fairbrother. Celui-ci ne fut pas plus surpris que l'homme de loi de voir un vilain secret mis au jour sur le compte de Bulstrode, bien que son sentiment naturel de justice fût assez fort pour avoir toujours empêché son antipathie de conclure. Mais tandis qu'ils causaient ensemble, une autre association d'idées se faisait jour silencieusement dans l'esprit de Fairbrother. Il se représentait à l'avance ce que bientôt on allait dire tout haut. Il le voyait clair comme 2 et 2 font 4. En même temps qu'il apprenait les raisons qui tenaient Bulstrode dans la crainte de Raffles, la pensée lui vint que cette crainte pouvait n'avoir pas été étrangère à la subite générosité du banquier envers son médecin. Et tout en se refusant à admettre que Lydgate eût en quelque sorte accepté cette somme comme prix de son silence, il eut le pressentiment que cette complication d'événements pourrait amener pour la réputation de Lydgate de fâcheuses conséquences. Voyant que M. Hawley ne savait rien encore du changement de situation de Lydgate et de l'acquittement de ses dettes, il prit soin de glisser sur tout ce qui pouvait y avoir trait. « Eh bien, dit-il, avec un profond soupir, désirant mettre fin à la discussion, c'est une étrange histoire. Ainsi, notre ardent Ladislav a une généalogie bizarre. Une jeune personne de caractère et un patriote polonais musicien. Voilà la souche d'où il est très naturellement sorti. Mais je n'aurais jamais supposé de greffe du côté de ce juif prêteur sur gage. On ne sait jamais à l'avance ce que produira un mélange quelconque. Il y a telles espèces d'immondices qui servent à clarifier. C'est tout juste à quoi je me serais attendu, s'écria M. Hawley, quelque sang maudit et étranger juif, corse ou bohémien. Je sais que c'est une de vos bêtes noires, Hawley, mais c'est en réalité un garçon désintéressé et pas vulgaire, dit M. Fairbrother en souriant. Aïe, aïe, c'est là votre corps de Whig, dit M. Hawley, qui aimait à répéter que ce dernier Fairbrother était un si bon et si aimable homme qu'on le prendrait pour un Tory. M. Hawley rentra chez lui, ne voyant dans les soins donnés par Lydgate à Raffles qu'un élément de témoignage contre Bulstrode. Mais la nouvelle se répandit rapidement que, d'un moment à l'autre, Lydgate s'était trouvé à même non seulement de se débarrasser de la saisie exercée dans sa maison, mais encore de payer toutes ses dettes. Grossi des commentaires et des conjectures qui lui donnaient un nouveau corps et un nouvel élan, d'autres personnes que Hawley ne tardèrent pas à en être instruites et ne furent pas longues à trouver un rapport significatif entre cette soudaine affluence d'argent et le désir de Bulstrode d'étouffer le scandale. N'eût-on pas eu la preuve que l'argent venait de Bulstrode, qu'on l'aurait infailliblement deviné. Car on savait auparavant que ni son beau-père, ni personne de sa famille ne ferait rien pour aider Lydgate. Et on ne tarda pas d'ailleurs à posséder la preuve certaine, d'abord par un commis de la banque, puis par Mrs. Bulstrode elle-même, qui parla innocemment du prêt à Mrs. Plimdale, laquelle en parla à sa belle-fille Toller, laquelle en parla à tout le monde. L'affaire devenue publique prit tant d'importance que la nécessité s'imposa de donner quelques dîners à l'occasion d'un tel scandale. Tous les jours, femmes, veuves, filles avec leurs ouvrages allèrent prendre le thé les unes chez les autres, et l'esprit de sociabilité, depuis le Dragon Vert jusqu'à Dollop, en acquit une saveur que n'aurait pu lui donner la question du bill de réforme. On ne doutait pas que derrière la générosité de Bulstrode vis-à-vis de Lydgate se cachât quelque motif inavouable. M. Hawley fut le premier à réunir chez lui, avec une société choisie, M. Toller, M. Rench et les deux médecins consultants, tout exprès pour discuter bien à fond les probabilités de la maladie de Raffles, leur répétant tous les détails contenus de Mrs. Able en concordance avec le certificat de Lydgate et d'après lesquels la mort devait être attribuée au délirium tremens. Les médecins, qui naturellement étaient encore tous dans les vieux errements sur la manière de traiter cette maladie, déclarèrent qu'il leur était impossible de rien voir dans ces détails qu'on pût interpréter comme un motif plausible de soupçon. Mais les raisons morales de soupçon n'en étaient pas moins toujours là, les raisons puissantes que Bulstrode avait évidemment pour souhaiter de se débarrasser de Raffles, et le fait qu'à ce moment critique, il avait donné à Lydgate le secours dont depuis quelque temps déjà il devait connaître la nécessité. Il ne croyait guère non plus Bulstrode homme à se laisser arrêter par des scrupules. Et quant à Lydgate, pourquoi eût-il été plus difficile à corrompre que tant d'autres aussi fiers que lui devant le besoin d'argent? Quand même il n'aurait été payé que pour garder le silence sur le passé de Bulstrode, ce fait seul jetait un jour odieux sur Lydgate, auquel on reprochait depuis longtemps de chercher à se grandir en se faisant l'acolyte du banquier et de jeter le discrédit sur les anciens de sa profession. Aussi, malgré qu'il n'y eut pas, dans les circonstances de la mort de Raffles à Stone Court, de signe manifeste de culpabilité, la société choisie de M. Hawley se sépara avec le sentiment que l'affaire avait mauvaise mine. Mais cette vague conviction de culpabilité, qu'il était difficile d'établir, et qui suffisait à provoquer des hochements de tête et des insinuations de la part des anciens et des plus considérables de la profession, avait pour l'esprit public en général toute la puissance supérieure que donne le mystère au fait qui l'accompagne. Chacun préférait ses propres conjectures à la connaissance pure et simple du fait, car la conjecture devenait bientôt plus certaine que la connaissance même, et elle s'accommodait plus facilement de l'incompatible. Tout ce qu'on avait même pu savoir du passé de Bulstrode arrivait à se confondre dans la masse du mystère, comme autant de métal en fusion à verser dans le dialogue, pour lui faire prendre toutes les formes fantastiques qu'il plaisait au ciel de lui donner. Tel était le sentiment général, sanctionné et représenté notamment par Mrs. Dunlop, la remarquable hôtesse du Hanap dans Slaughter Lane, qui savait remettre à leur place certains clients disposés à croire que leur récit des choses du dehors avait quelque valeur, à côté de ce qui lui avait surgi dans l'esprit à elle. Comment cela lui était venu, elle ne le savait pas elle-même, mais c'était là devant elle comme inscrit avec de la craie sur le devant de la cheminée. Oui, Bulstrode avait la conscience si noire, il pourrait le confesser, que si le cheveu de sa tête connaissait les pensées de son cœur, il les arracherait par la racine. Hypocrite comme il l'est, et menant les choses tambour battant, si bien qu'il n'y avait pas dans le pays un seul ecclésiastique assez bon pour lui. Il a été forcé de prendre le diable dans son conseil, mais le diable a été trop fort pour lui. Aïe, aïe, c'est un complice qu'on ne peut chasser du pays une fois qu'il y est entré, dit M. Crabbe le vitrier. Mais j'ai entendu dire que Bulstrode voulait déjà s'enfuir, de crainte d'être démasqué. Il sera bien chassé, bon gré, mal gré, dit M. Dill le barbier qui venait d'arriver. J'ai rasé ce matin Fletcher, le commis de Hawley, qui a mal au doigt, et il dit que tout le monde est d'accord pour se débarrasser de Bulstrode. M. Tessiger lui-même est contre lui et voudrait le voir hors de la paroisse. Et il y a des gens dans la ville qui assurent qu'ils aimeraient autant dîner avec un forçat. Pour mon compte, je l'aimerais certes mieux, dit Fletcher, car qu'est-ce qui vous soulève plus le cœur qu'un homme qui a toujours sa religion à la bouche, donnant à entendre que les 10 commandements ne lui suffisent pas, quand avec cela il est pire que la moitié des habitants des prisons. C'est Fletcher lui-même qui a tenu ce langage. Ce sera malgré tout dommage pour la ville, si l'argent de Bulstrode en sort, fit observer M. Limp d'une voix chevrotante. Oh, il y a des gens qui valent mieux et qui dépensent plus mal leur argent, dit un teinturier dont les mains cramoisies ne semblaient pas d'accord avec l'honnête figure. Mais il ne gardera pas son argent, d'après ce que je peux augurer, dit le vitrier. Ne dit-on pas que quelqu'un aurait le droit de l'en dépouiller? On aurait le droit, à ce qu'il paraît, de lui enlever jusqu'au dernier penny, si on allait devant les tribunaux. Non pas, objecta le barbier, qui se sentait chez Mrs. Dollop, un peu au-dessus de son entourage. Fletcher dit qu'il n'en est rien. Il prétend qu'on pourrait prouver 1000 fois de qui ce jeune Ladislav est fils, et qu'on n'en serait pas plus avancé. Il n'en toucherait pas pour cela un penny. Voyez-vous cela maintenant, s'écria Mrs. Dollop avec indignation. Je remercie le Seigneur d'avoir rappelé à lui mes enfants, si c'est là tout ce que la loi peut faire pour les orphelins. Ainsi donc, quel que puisse être votre père et votre mère, cela ne vous servirait de rien. Que Fletcher parle ainsi si bon lui semble, mais je dis, moi, que vous ne me ferez pas dire comme Fletcher. Mais il y a encore autre chose de plus important à considérer que l'argent, remarqua le vitrier. Il y a ce pauvre malheureux qui est mort et enterré. Autant que j'en puis juger, il avait dû connaître des jours où il était un gentleman, et un autre gentleman que Bulstrode. Un autre gentleman, je puis le garantir, dit Mrs. Dollop, et un homme autrement beau de sa personne, d'après ce que je sais. Comme me le disait M. Baldwin, le collecteur d'impôts, debout à la place même où vous êtes assis, tout l'argent avec lequel Bulstrode est arrivé dans cette ville, c'est de l'argent volé et escroqué. Eh bien, M. Baldwin, vous ne m'apprenez rien, lui ai-je répondu. Cela me retourne le sang de le voir depuis qu'il est venu ici dans Slaughter Lane pour acheter cette maison au-dessus de ma tête. Les gens n'ont pas seulement la couleur de la cuve à pétrir, et ils vous fixent comme s'ils voulaient voir dans votre épine dorsale pour rien du tout. Voilà ce que j'ai dit, et M. Baldwin peut m'en rendre témoignage. Et c'est aussi absolument exact, ajouta M. Crabbe, car, d'après ce qu'on sait, ce Raffles, comme on l'appelle, était un homme vigoureux et aux fraîches couleurs, comme on aime à en voir, et de la meilleure compagnie, bien qu'il ne soit que trop certain qu'il repose mort dans le cimetière de Lowick. Et autant que j'en puis juger, il y a des gens qui pourraient en dire plus long sur la manière dont il y est allé. « Je veux bien vous croire, s'écria Mrs. Dollop, quand un homme a été attiré dans une maison isolée, et que ceux qui peuvent payer des hôpitaux et des gardes-malades pour la moitié du pays s'arrangent pour veiller eux-mêmes jour et nuit, ne permettant à personne d'approcher, sauf à un docteur qui est réputé pour ne reculer devant rien, qui était d'abord aussi pauvre qu'on peut l'être, et auquel il est arrivé tout à coup tant d'argent qu'il peut payer M. Biles, le boucher, dont la note pour les meilleurs morceaux remontait à 12 mois à la dernière Saint-Michel, je n'ai besoin de personne pour venir me dire qu'il s'est passé là une chose plus grave que les choses pour lesquelles on met les offices dans le livre de prière. Je n'ai que faire de rester là debout, à clignoter, à fermer les yeux et à réfléchir. » Et Mrs. Dunlop regarda autour d'elle de l'air d'une hôtesse accoutumée à dominer son monde. « Pourquoi ne détériorerait-on pas cet homme et ne ferait-on pas venir le coroner ?» proposa le teinturier. « On l'a fait maintes et maintes fois. S'il y a eu une vilaine action de commise, ce serait le moyen de le découvrir. » « Pas avec eux, monsieur Jonas, » dit Mrs. Dunlop énergiquement. « Je les connais, les médecins. Ils sont trop rusés pour être découverts. Et ce monsieur Lydgate, qui voulait couper et déchiqueter tout le monde avant que le souffle fût seulement sorti du corps. » Il est assez clair l'avantage qu'il voulait tirer de ses visites chez les gens respectables. Il connaît des médecines, soyez-en sûrs, qu'on ne peut ni voir, ni sentir, ni avant de les avaler, ni après. Savez-vous quoi? J'ai vu moi-même des gouttes ordonnées par le docteur Gambit, qui est le médecin de notre cercle et un brave homme, et qui a amené au monde plus d'enfants vivants qu'aucun autre à Middlemarch. Je dis que j'ai vu moi-même des gouttes qu'on pouvait verser dans un verre. C'était comme s'il n'y avait rien eu, et qui ne vous empoignait pas moins le lendemain. Ainsi, c'est à votre bon sens à juger de ce qu'il en est. Ne m'en parlez pas. Tout ce que je dis, c'est que c'est une bénédiction qu'on n'ait pas fait entrer ce docteur Lydgate dans notre cercle. Plus d'une mère aurait pu s'en repentir pour son enfant. Les points principaux de cette discussion chez Dunlop étaient devenus le sujet général des conversations dans toutes les classes de la ville. Le bruit en était parvenu d'un côté au presbytère de Lowick, de l'autre à Tipton Grange. Chez les Vinci, comme chez les amis de Mrs. Bulstrode, on en avait discuté avec de tristes réflexions sur la pauvre Henriette. Et Lydgate en était encore à s'apercevoir qu'on le regardait de travers. Et Bulstrode lui-même ne soupçonnait pas encore qu'on fût sur la piste de ses secrets. Peu habitué à des rapports bien cordiaux avec ses voisins, il ne pouvait guère s'apercevoir de la froideur nouvelle, et il était décidé maintenant à rester à Middlemarch. « Nous ferons un voyage à Cheltenham d'ici 1 ou 2 mois, » avait-il dit à sa femme. « On peut y trouver de grandes ressources au point de vue religieux, en même temps que l'air et les eaux, et nous nous trouverons très bien de quelques semaines de ce séjour tranquille et bienfaisant. » Il croyait réellement aux ressources religieuses dont il parlait. Et il avait la ferme intention de consacrer désormais sa vie à Dieu avec un redoublement de zèle en expiation de ses derniers péchés, dans lesquels, d'ailleurs, place restait à l'hypothèse, hypothèse qui se retrouvait dans ses prières pour en obtenir le pardon, « si en ceci j'ai transgressé ta volonté ». Quant à l'hôpital, il évita d'en reparler à Lydgate, craignant de manifester un changement de dessein trop prompt aussitôt après la mort de Raffles. Il pensait bien, dans le secret de son âme, que Lydgate le soupçonnait d'avoir avec intention contrevenu à ses ordres, et qu'avec ce soupçon, il devait en chercher la cause. Mais rien ne lui avait été révélé de l'histoire de Raffles, et Bulstrode voulait surtout éviter de rien faire qui pût donner l'éveil aux soupçons mal définis de Lydgate. Quant à la certitude que telle ou telle méthode de traitement pût sauver ou tuer un malade, Lydgate était le premier à combattre un tel absolu. N'ayant pas le droit de parler, il avait toutes les raisons pour garder le silence. Aussi Bulstrode se sentait-il en sûreté, comme par une grâce providentielle. Un seul incident l'avait vivement impressionné, la rencontre fortuite de Caleb Garth, qui avait ôté son chapeau devant lui avec un air de douce gravité. Il s'élevait cependant contre lui une forte opposition de la part des principaux habitants de la ville. Une importante réunion avait été convoquée à l'hôtel de ville à propos d'une question sanitaire, à laquelle l'apparition d'un cas de choléra à Middlemarch donnait un caractère d'urgence. Depuis l'acte du Parlement qui autorisait certaines impositions pour les mesures sanitaires, on avait établi un conseil de surveillance spécial au sein duquel Whigs et Tories s'étaient entendus déjà pour l'application de ces mesures. La question maintenant était de savoir si, pour convertir en cimetière un terrain en dehors de la ville, on aurait recours à l'impôt ou à des souscriptions particulières. Le meeting allait s'ouvrir et toutes les personnes ayant quelque importance dans la ville était tenu de s'y rendre. M. Bulstrode, comme membre du conseil, quitta la banque un peu avant midi, avec l'intention d'appuyer le projet de souscription particulière. Dans le trouble et l'agitation de ces derniers temps, il s'était tenu à l'arrière-plan, et il sentait qu'il allait reprendre ce jour-là son ancien rôle d'homme d'action et son influence dans les affaires publiques de la ville où il comptait finir ses jours. Parmi les différentes personnes cheminant dans la même direction, il aperçut Lydgate. Ils se rejoignirent, causèrent de la question qui allait se débattre, et entrèrent ensemble. On eût dit que toutes les personnes notables étaient arrivées avant eux. Mais il y avait encore des places libres au haut bout de la grande table centrale, et ils se frayèrent un chemin jusque-là. M. Fairbrother était assis du côté opposé, non loin de M. Hawley. Tous les médecins étaient présents. M. Tessiger occupait le fauteuil du président, avec M. Brooke de Tipton à sa droite. Lydgate remarqua un échange singulier de regards lorsque Bulstrode et lui vinrent prendre leur place. Après que l'affaire eut été exposée par le président, qui indiqua les avantages d'acheter par souscription une étendue de terrain assez vaste pour servir définitivement de cimetière général, M. Bulstrode, dont la voix un peu aiguë mais contenue et fluide était bien connue de la ville dans des réunions de ce genre, se leva et demanda l'autorisation d'exprimer son avis. Lydgate eut le temps de surprendre de nouveau cet échange singulier de regards avant que M. Hawley, se levant, eût prononcé de sa voix ferme et retentissante « Monsieur le Président, je demande, avant que personne émette son opinion sur ce point, qu'il me soit permis de parler d'une question qui importe au sentiment public et qui est regardée non seulement par moi, mais par bien d'autres gentlemen ici présents comme un préliminaire essentiel. » La manière de parler de M. Hawley, alors même que son terrible langage ne dépassait pas les convenances parlementaires, avait quelque chose de formidable dans sa brièveté et son sang-froid. M. Tessiger lui donna la parole. Bulstrode se rassit et M. Hawley continua. « Dans ce que j'ai à dire, Monsieur le Président, je ne parlerai pas seulement en mon nom. Je parle avec l'assentiment et à la demande expresse de non moins de 8 de mes concitoyens qui nous entourent ici même. C'est notre sentiment unanime qu'il faut adjurer M. Bulstrode, et je l'adjure en cet instant, de renoncer aux fonctions publiques qu'il occupe ici, non seulement comme contribuable, mais comme gentleman parmi des gentlemen. Il y a des faits et il y a des actes qui, vu les circonstances, échappent à la loi, bien qu'ils soient peut-être pires que beaucoup d'autres légalement punissables. Les honnêtes gens et les gentlemen, s'ils ne veulent pas de la compagnie des gens qui commettent de tels actes, ont à se défendre eux-mêmes de leur mieux. Et c'est ce que moi et les amis que je pourrais appeler mes clients, dans cette circonstance, sommes résolus à faire. Je ne dis pas que M. Bulstrode ait été coupable d'actions malhonnêtes, mais je l'adjure, soit de nier et de réfuter publiquement les récits scandaleux rapportés contre lui par un homme mort à l'heure qu'il est, et mort dans sa maison, rapport d'où il ressort qu'il a été engagé des années durant dans des affaires véreuses et qu'il a gagné sa fortune par des moyens déshonnêtes, soit de se retirer des dignités qui n'ont pu lui être conférées que comme un gentleman parmi des gentlemen. » Tous les yeux dans l'assistance étaient tournés vers Bulstrode, qui, depuis la première mention de son nom, avait passé par une crise d'émotion presque trop violente pour sa constitution débile. Lydgate, ébranlé lui-même, comme si la terrible interprétation de son vague pressentiment venait de lui être révélée, Lydgate, en voyant le visage livide de Bulstrode se contracter de douleur, sentit néanmoins son propre mouvement de ressentiment et de haine céder chez lui à cet instinct de l'homme habitué à guérir, qui songe d'abord à secourir et à soulager celui qui souffre. Bulstrode eut l'intuition rapide que sa vie n'était au fond qu'une vie manquée, qu'il était un homme déshonoré, incapable d'affronter le regard de ceux vis-à-vis desquels il s'était érigé en censeur, que Dieu l'avait renié à la face des hommes et le laissait exposer sans défense au mépris triomphant de ceux qui se réjouissaient de voir leur haine justifiée. Il eut le sentiment de l'inutilité absolue de cet équivoque qu'il avait fait avec sa conscience, en jouant sur la vie de son complice. équivoque qui se retournait maintenant contre lui avec le dard acéré d'un mensonge découvert. Toutes ces pensées traversèrent son être comme une agonie de terreur qui ne réussit pas à tuer et laisse les oreilles ouvertes pour entendre encore le flot montant de l'exécration. Le sentiment soudain du péril, après le sentiment de la sécurité recouvrée, revint s'imposer, non pas à l'organisation grossière d'un criminel, mais aux nerfs impressionnables d'un homme dont toute l'intensité de la vie s'était toujours portée vers ce rôle de suprématie que les circonstances mêmes lui avaient créé. Mais dans ce sentiment intense se trouvait aussi la force de réagir. À travers toute son infirmité physique, frémissait le nerf tenace de la volonté ambitieuse et décidée à la préservation de soi-même, dont la flamme n'avait cessé de jaillir de son être pour dissiper toutes les craintes doctrinales, et qui, même alors qu'il était assis là, objet de compassion pour les miséricordieux, commençait à s'animer et à brûler sous sa pâleur de cendre. Avant que les derniers mots fussent sortis de la bouche de M. Hawley, Bulstrode sentit qu'il répondrait, et que sa réponse serait une riposte. Il n'osa pas se lever et dire « Je ne suis pas coupable, toute cette histoire est fausse ». Si même il l'avait osé, la sensation aiguë d'être démasqué, qu'il éprouvait en ce moment, lui eût fait paraître cet effort pour se sauver aussi inutile que de chercher à couvrir sa nudité sous un frêle lambeau qui se déchirerait au moindre effort. Il régna pendant quelques instants un silence complet, tandis que tous les regards de l'assemblée étaient fixés sur Bulstrode. Il était assis, absolument immobile, fortement appuyé au dossier de sa chaise, n'osant se hasarder à se lever. Et quand il commença à parler, il pressa de ses deux mains les deux côtés de son siège. Mais sa voix était parfaitement intelligible, seulement plus rauque que de coutume, et il s'exprimait distinctement, tout en s'arrêtant entre chaque phrase, comme si la respiration lui manquait. Il dit en se tournant d'abord vers M. Thesiger, puis regardant M. Hawley, « Je proteste devant vous, monsieur, en votre qualité de ministre chrétien, contre les menées qu'une haine virulente a dictées contre moi. Ceux qui me sont hostiles sont heureux d'ajouter foi à toutes les injures dont une langue venimeuse vient de me couvrir, et leurs consciences deviennent sévères à mon égard. Osez dire que la calomnie dont on veut me rendre victime m'accuse d'actions illicites. » Ici la voix de Bulstrode s'éleva et prit un accent plus amer pour ne plus sembler bientôt qu'un faible cri. « Qui sera mon accusateur ? Ce ne seront pas les hommes dont la vie non seulement n'est pas chrétienne, mais scandaleuse. Ce ne seront pas les hommes qui se servent eux-mêmes des plus vils instruments pour arriver à leur but, dont la profession est un tissu de chicaneries qui ont dépensé leurs revenus à satisfaire leurs grossières jouissances, tandis que j'ai consacré le mien à l'avancement des œuvres utiles en vue de cette vie et de l'autre. » Après le mot « chicanerie », il s'éleva dans la salle un bruit croissant de murmures et de sifflets, tandis que quatre personnes se levaient à la fois. M. Hawley, M. Toller, M. Chicheley et M. Akbat, mais l'explosion instantanée de M. Hawley imposa le silence aux autres. « Si c'est de moi que vous parlez, monsieur, je vous convoque, vous et les autres, à faire l'examen de ma vie professionnelle. Quant à chrétien ou pas chrétien, je répudie votre christianisme fait de blagues et de cafardises. Et quant à la façon dont je dépense mon revenu, il n'est pas dans mes principes de venir en aide à des drôles et de dépouiller des enfants de leur héritage afin de soutenir la religion et de m'ériger en saint rabat-joie. Je n'affecte aucune rigidité de conscience. Je n'ai pas trouvé jusqu'ici qu'il y eût besoin de fameux exemples pour y mesurer vos actions, monsieur. Et encore une fois, je vous adjure, soit de vous expliquer d'une manière satisfaisante sur les faits qui vous sont imputés, soit d'abandonner des fonctions où, à quelque prix que ce soit, nous refusons de vous avoir pour collègue. Je dis, monsieur, que nous refusons d'agir de concert avec un homme dont le caractère ne s'est pas lavé des révélations infamantes qu'ont jetées sur lui non seulement des rapports, mais des faits récents. Permettez, monsieur Hawley, dit le président. Et M. Hawley, encore frémissant, s'inclina, déguisant mal son impatience, et s'assit, les mains enfoncées dans ses poches. « Monsieur Bulstrode, « Il ne me paraît pas désirable de prolonger la discussion présente, » dit M. Tessiger, se tournant vers le banquier, pâle et tremblant. « Je suis forcé de me ranger en partie à l'opinion émise par M. Hawley comme expression du sentiment général, estimant que vous devez à votre profession chrétienne de vous laver, si possible, de certaines diffamations malheureuses. Pour ma part, je serai disposé à vous en fournir pleinement l'occasion et à vous prêter attention. » Mais je dois dire que votre attitude présente est fâcheusement incompatible avec ces principes sur l'honneur desquels je suis tenu de veiller, et avec lesquels vous avez cherché à vous identifier. Je vous conseille pour le moment, comme votre pasteur, et en homme qui espère vous voir réhabilité dans l'estime générale, et de ne pas interrompre plus longtemps la délibération de nos affaires. » Bulstrode, après un moment d'hésitation, prit son chapeau qui était à terre et se leva lentement. Mais il saisit en chancelant le coin de sa chaise, de telle sorte que Lydgate, qui l'observait, fut convaincu qu'il n'aurait pas la force de s'éloigner sans soutien. Que faire? Il ne pouvait laisser un homme s'affaisser à ses côtés, faute de secours. Il se leva, donna son bras à Bulstrode et le conduisit ainsi hors de la salle. Mais cet acte, qui eût pu être un devoir facile et de pure compassion, lui fut en ce moment inexprimablement amer. Il lui semblait qu'il apposait sa signature à cette association de sa personne avec Bulstrode, dont il voyait maintenant toute la signification, telle qu'elle avait dû se présenter à l'esprit des autres. Il eut la conviction que cet homme, qui s'appuyait en chancelant sur son bras, ne lui avait donné les 1000 livres que pour acheter son silence, et que de façon ou d'autre on était intervenu dans le traitement de Raffles pour un vilain motif. Les conclusions s'enchaînaient d'assez près. La ville connaissait le prêt d'argent, y voyait un marché, et croyait qu'il l'acceptait comme un marché. Le pauvre Lydgate, tandis que son cœur battait sous la terrible étreinte de cette révélation, n'en était pas moins moralement tenu de reconduire M. Bulstrode à la banque, d'envoyer chercher sa voiture, et d'en attendre l'arrivée pour le ramener chez lui. Cependant, on en avait fini avec la question du meeting pour se jeter, parmi les différents groupes, dans des discussions animées sur cette affaire de Bulstrode et de Lydgate. M. Brooke, qui n'avait d'abord saisi que des allusions imparfaites et se trouvait fort mal à l'aise d'avoir été un peu trop loin en appuyant Bulstrode, se fit mettre au courant des choses et ressentit une certaine tristesse charitable en causant avec M. Fairbrother du jour fâcheux sous lequel on en était venu à considérer Lydgate. M. Fairbrother allait s'en retourner à pied à Lowick. « Montez dans ma voiture, » dit M. Brooke. « Je fais un détour pour voir Mrs. Casaubon. Elle devait rentrer du Yorkshire hier au soir. Elle aura plaisir à me voir, vous savez. » Ils firent route ainsi, M. Brooke bavardant, exprimant l'espoir qu'il n'y avait rien eu réellement de bien noir dans la conduite de Lydgate, ce jeune homme qu'il avait jugé tout à fait au-dessus du niveau ordinaire, lorsqu'il lui avait apporté une lettre de son oncle, Sir Godwin. M. Fairbrother parla peu. Il était profondément affligé. Avec sa fine perception de la faiblesse humaine, il ne pouvait être assuré que, sous la pression de besoins humiliants, Lydgate ne fût pas tombé au-dessous de lui-même. Lorsque la voiture s'arrêta à la grille du manoir, Dorothée était dehors sur la terrasse, et elle vint à leur rencontre. « Eh bien, ma chère, » dit M. Brooke, « nous revenons tout droit d'un meeting. Un meeting pour des questions sanitaires, vous savez. » « M. Lydgate y était-il ? » demanda Dorothée, qui, tête nue, sous les rayons étincelants d'avril, avait un air de santé et d'animation. « J'ai besoin de le voir et de causer longuement avec lui au sujet de l'hôpital. Je me suis engagé à le faire vis-à-vis de M. Bulstrode. » « Oh, ma chère, » dit M. Brooke, « nous avons appris de mauvaises nouvelles, de mauvaises nouvelles. » Ils se dirigèrent en traversant le jardin vers la porte du cimetière. M. Fairbrother était pressé de rentrer au presbytère, et Dorothée apprit toute la triste histoire. Elle écouta avec un profond intérêt et demanda à entendre deux fois les faits et les impressions concernant Lydgate. Après un court silence, s'arrêtant à la porte du cimetière et s'adressant à M. Fairbrother, « Vous ne croyez pas, » dit-elle énergiquement, « que Lydgate soit coupable d'une bassesse. Je ne veux pas le croire. Découvrons la vérité, et lavant-le de cette accusation.